sexuate, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'écho des Garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, je crois qu'on va commencer cette émission par vous parler de Lyon, ce qui s'y passe actuellement.
Oui, une question d'actualité immédiate. En effet, cet après-midi, il y avait une réunion entre des membres du gouvernement français et des membres du gouvernement italien, Hollande et Mario Monti. Et en début d'après-midi, on a appris que l'accord qui devrait lancer le TGV Lyon-Turin, et ben donc été accepté et été entériné avec donc à la clé le percement, enfin le projet du percement, parce que c'est pas encore fait, hein, le projet du percement du tunnel sous les Alpes pour un montant de 8,5 milliards d'euros, des accords de coopération policière, bien évidemment, des accords de coopération universitaire, hein, comme d'habitude dans ce genre de truc, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir... Vas-y, hein, parle.
Oui, simplement, ce que je voulais dire, c'est que l'accord qu'ils ont signé dépend de la participation de l'Europe à ce projet. Et donc, apparemment, il y aurait 35% pour le gouvernement italien, 25% pour le gouvernement français, et 40% restant pour l'Europe, qui n'a toujours pas donné sa réponse définitive sur ce projet.
Bah, de toute façon, eux, ça rentre dans leur projet d'aménagement du territoire européen, mais bon, il y a quand même une question qu'on peut soulever, c'est que on nous dit à longueur de journée qu'il n'y a pas de fric, qu'il n'y a pas de thunes, et là, visiblement, on est capable de dépenser 8,5 milliards d'euros pour des projets qui sont contestables et contestés, et qui, en plus, somme toute, sont pas encore sûrs d'être réalisés, mais l'argent déjà levé, quand même, 8,5 milliards d'euros, c'est quand même des sommes, et l'ensemble du projet est estimé à 25 milliards d'euros. Ouais. Donc, la lutte contre le TAV, en italien, donc ce TGV Lyon-Turin existe depuis l'origine de ce projet. Et évidemment, on l'avait souligné ici d'une multiples reprises, la partie française qui était concernée par le projet était assez molle, en fait, il y avait assez peu de lutte. Or, aujourd'hui, avec la montée en puissance de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, le questionnement des grands projets et des grands travaux inutiles, il y a l'occasion d'une reprise de cette lutte. Et normalement, aujourd'hui, devait y avoir une manifestation à Lyon, tout l'après-midi, avec des Italiens, bien évidemment, avec des Lyonnais, avec des gens de la Savoie, et avec des gens qui affirmaient leur solidarité avec tous ces gens, tous ces peuples qui se battent contre ces projets, ces grands travaux. Et on a eu les dernières infos qu'on a là, c'est que moi j'ai l'information comme quoi il y aurait déjà une cinquantaine de personnes interpellées, mais surtout que la manifestation n'a à aucun moment pu partir, ouais, puisque dès le début du regroupement Pardon, j'ai oublié de dire qu'il y avait bien évidemment des cars, des bus de manifestants italiens qui avaient été retenus à la frontière. C'est un grand classique à 26 000,
quoi, oui.
Suspension de Schengen quand on veut, etc. À la gare de Lyon-Perrache, il y avait des gens qui avaient été arrêtés. Et que, donc, dès le début du regroupement des manifestants sur la place Brotteau, s'était mis en place un dispositif de camions avec des grilles pour entourer, encercler les gens et les empêcher de partir. Alors, cette situation, elle n'est pas inédite à Lyon, puisque il y avait déjà eu un épisode de ce type-là lors du CPE. Pour ceux qui connaissent un peu, c'était l'incident qui avait lieu en place Bellecour, où en fait, la place avait été complètement encerclée, bloquée, et les flics laissaient sortir les gens un à un en contrôlant leurs identités. Donc en fait une espèce de garde à vue, hein, à ciel ouvert, une garde à vue géante, donc une espèce de mix entre ces techniques de maintien de l'ordre et ces techniques de gestion des foules, avec donc cette garde à vue là en plein air, et puis ce qu'on appelle désormais, parce que il y a toute une science derrière ça, le kitting, qui est en fait le terme anglais qui veut dire frire, où justement on encercle les gens, on les compresse, et soit on les arrête à part un, ou soit on les fait sortir en les contrôlant. Alors là, il y a eu quand même une attitude assez intéressante, c'est-à-dire que les manifestants, s'apercevant qu'ils allaient se retrouver dans ce type de dispositif-là, ont refusé collectivement de donner leur identité, et bien évidemment, il y a eu une montée en pression petit à petit, et vers 16h30, 17h, il y avait les premières lacrymogènes qui étaient parties, et à 18h, là, quelle est la situation pour 19h ?
Alors, oui, voilà. Donc apparemment, il y a... En plus, ils veulent laisser... sortir personne. Il y a des Italiens qui voulaient, donc il y a 17 cars qui sont venus d'Italie, qui veulent repartir. Donc apparemment il y en a 3 qui sont sortis, mais les manifestants sont à chaque fois accompagnés dans les bus par des CRS. Il y a eu une charge tout à l'heure. Il y a eu un manifestant arrêté par des policiers italiens civils. Voilà. Et puis là, c'est pour l'instant, ils attendent, ils attendent toujours pour pouvoir sortir. Il y en a qui réussissent à s'échapper apparemment en passant par les égouts, ou je sais pas trop. Ils ont réussi à trouver quelques trucs, mais de toute façon, on ne fera pas sortir la foule qui est là de cette manière-là.
Bah, on essaiera de revenir dessus la semaine prochaine.
Et
avec,
tu parles de la foule, il y a combien de personnes qui sont estimées ?
Il y avait plus d'un millier de manifestants.
D'accord.
De regrouper.
D'accord.
Bon, on essaiera de revenir là-dessus la semaine prochaine, peut-être avec des camarades qui se trouvaient là-haut pour qu'ils nous racontent l'après-midi ou les éléments qu'il y a dessus. Toujours dans le cadre de la lutte contre les grands travaux, on a appris... des informations assez inquiétantes pour Notre-Dame-des-Landes dans la journée, là, Denis.
Ouais, c'est ça. Ou alors apparemment, mais bon, il y a un jugement qui va intervenir demain concernant la châtaigneraie.
La châtaigne.
Qui a eu des constructions qui ont été démolies X fois, et il y a de nouvelles constructions qui ont été construites ces derniers jours. Et Vinci a donc demandé à la justice de évacuer tout ça. Normalement, la justice devrait prendre position demain, et il y a des gros risques que la châtaigneraie soit évacuée donc demain ou après-demain. Et mais en plus, d'après les forces de police qui sont là, d'après les décrets qui sont prises, il y a 2 arrêtés préfectoraux qui sont pris, qui sont assez significatifs. Il y a une interdiction pour le transport de carburant dans le coin de Notre-Dame-des-Landes.
Pas dans les voitures, hein. Dans le récipient extérieur.
Voilà. Par contre, jusque du 3 au 10 décembre. Et puis, il y a une interdiction qui m'a fait rire. Une interdiction pour le transport des explosifs, produits inflammables, feux d'artifice, entre le 3 et 10 décembre. Ça veut dire que le 11, on a le droit. Bon, voilà. N'empêche que ces 2 arrêtés électoraux, préfectoraux, font dire aux gens que, il y a des gros risques que le pouvoir, veulent en finir. cette semaine. C'est les informations qu'on avait déjà eues avant, hein, puisqu'il y avait déjà, il semblerait, on avait dit d'ailleurs la semaine dernière, qu'il y avait des réunions entre Vinci, bien sûr, et Hérault, et les flics, hein, qui sont de plus en plus mécontents des conditions de travail pour eux, et veulent en finir aussi. Donc, effectivement, ils risquent de foutre le paquet ces prochains jours.
Alors, tiens, on parlait de Lyon tout à l'heure. Donc, apparemment, il y a des flics qui étaient à Notre-Dame-des-Landes quand ils ont envoyé là à Lyon, parce qu'ils ont été reconnus. Donc, ils n'arrêtent pas de se balader. Alors, dans la journée, là, ce qu'il y a eu, c'est les flics sont en train de faire... Ils font des contrôles, donc, pour application, apparemment, des deux arrêtés préfectoraux, puis, hein, de vérifier si dans les coffres des voitures, il n'y a pas du carburant, des explosifs, etc.
Voilà. Non, mais c'est un prétexte aussi, certainement. Bon, évidemment, faut vraiment se tenir au courant de ça et être au jus pour être attentif. Et il faut rappeler d'ailleurs que il y a une proposition en cas d'attaque des flics, d'occupation des mairies socialistes et d'occupation des préfectures dans toutes les villes dans les 48 heures qui suivent. Mais on peut pas nier non plus qu'il y a certainement dans la guerre que l'État et que la préfecture mènent contre les occupants de Notre-Dame-des-Landes, une partie de tension psychologique où réanimer cette tension, obliger les gens à se tenir prêts en permanence, ça use et ça fatigue, ça met les nerfs et voilà quoi. C'est dans ce type de combat, il y a tous les leviers qui peuvent être mis en place par la préfecture, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la préfecture, ça va lui permettre une nouvelle fois d'établir les contrôles routiers et puis de relever l'identité des gens qui sont là. Et donc, du coup, d'accentuer et d'avoir toujours une capacité répressive par rapport à ça. Sur la répression, d'ailleurs, la semaine dernière, on vous a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été arrêté, peut-être même qu'on nous avait parlé de sa condamnation. Je ne sais plus. Oui. Bon, voilà, cette personne a été arrêtée et elle a été condamnée à 5 mois de
prison ferme.
Un an de prison, dont 5 mois ferme.
Ouais.
Elle est actuellement incarcérée à la prison de Nantes. Il y a un appel qui va être formé. Il y a d'ailleurs un appel à témoignage pour raconter les circonstances de cette arrestation, puisque maintenant qu'on en sait un peu plus, il est clair que cette arrestation, en tous les cas les conditions de cette arrestation, elles ont été organisées. C'est un piège qui a été tendu, en fait, puisque ce sont des gendarmes qui tenaient, entre guillemets, qui étaient à proximité d'une barricade, qui sont allés chercher des gens pour leur demander un coup de main pour défendre cette barricade et qui ont profité de ce moment-là pour les arrêter, voilà. Il y a quelqu'un, d'ailleurs...
Quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, des techniques habituelles de l'État et de sa bande d'hommes armés, quoi. Il y a eu quelques pépins pour certaines personnes qui étaient là, puisque évidemment, quand on se fait arrêter par des gens en civil sans rien, on a tendance à se défendre. Et puis de toute façon, on a le droit de se défendre lors de son arrestation. Et il y a quelques blessés. Si c'est vachement important que cette personne qui est actuellement incarcérée, qui est la première personne incarcérée dans le cadre de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, soit soutenue, soit pas toute seule. Donc on a son contact, hein, ses coordonnées à la prison. Je vais pas les donner à l'antenne parce que c'est un peu indiscret pour lui, mais si jamais vous désirez lui adresser des courriers, vous écrivez à l'Égrégore, boîte postale 1213 51058 Reims-Sélex, l'Égrégore, boîte postale 1213 51058 Reims-Sélex, et on lui fera parvenir par suivi du courrier. De toute façon, à mon avis, cette adresse et ce numéro d'écrou va être trouvable assez rapidement sur le site de la ZAD, mais si jamais vous désiriez l'avoir, vous nous écrivez un mail ou vous baladez sur internet et vous l'aurez, voilà.
Ok, bah écoutez, on va attendre, hein. On va attendre sur ce qui va se passer. Rappelons quand même que le 15 et 16 décembre, il y a une réunion des comités de soutien qui a lieu donc à Notre-Dame-des-Landes. Je crois qu'il y a d'autres initiatives qui sont prises à Nantes, en particulier, je crois, une semaine avant, dans la fin de la semaine, je crois. Non?
Si,
c'est ça, ouais. c'est ça, ouais, voilà. Donc voilà, ça bouge quand même beaucoup, donc faut espérer que ça continue. Allez, on fait une pause.
de grade frayeur, c'est pas leur rôle de ta sœur. Dans les tuyaux de la rumeur, comme un chien à l'odeur, je perds jamais le fil rouge. Prépare d'autres maquis, le corps de mon ennemi bouge. Les masques ont plus rien à masquer, ça sent mauvais pour de vrai. De force ou de craie, ça se voit de près, on est déjà dans l'après. Et c'est béant comme un puits, nous y ont tous mis. Respire le gaz, le voici. Rions un peu avant d'être vieux. Rions un peu avant d'être vieux. Les années de plomb sont devant la porte. Les années de plomb sont devant la porte. Tiens-toi mieux, reprends ton feu. Tiens-toi mieux, reprends ton feu. Il n'est pas sûr qu'on en sort. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, brûle, brûle. Déjà, tout brûle déjà, tout brûle déjà, tout brûle, tout brûle, tout brûle déjà. La rumeur, mon pétrole, on ne marche pas sur mes grolles, gros. La rue a ses cerveaux, premier au charbon pour la cantine d'un pote. Le moral entamé qui frôle le fond de la cuvette des chiottes. Le rap qui pue le mytho, toujours en travers de la glotte. On jacque, tu te tais ou tu chuchotes. Chez nous, c'est loin de Brooklyn. Tout le monde parle arabe dans les Yvelines, comme en Palestine. C'est le retour des vieux Hasbin et Bim dans ta gueule. Qui se font produire des films avec des banquets de gueule. Et j'aurai toujours le bras assez long pour forcer le président, quel qu'il soit, nous foutre sa tête de pute dans ses excréments. Quand tout brûle déjà, tout brûle déjà, tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà, tout brûle déjà, tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà, tout brûle déjà, tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Déjà, tout brûle, 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 tout brûle déjà. Je suis d'humeur explosive sous le caissier. Mieux vaut ne pas traîner les pieds dans ce métier. Si t'as jamais su te méfier, sont bons qu'à dire qu'ils ont fait du cash, ça reste à vérifier. Et le cadavre de leur carrière reste à identifier. N'écoutez pas la fragmentation, ne me demande pas pourquoi. Tirer dans le tard reste une tentation. Moi et mes méthodes drastiques, moi et ma putain de musique qui passe le casting pour le rôle du pain de plastique.
Parce qu'il y a toujours une suite. On tire d'abord, on parle ensuite. C'est la rumeur, personne ne veut savoir. Tu peux me croire quand
tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle déjà. Tout brûle, 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 brûle déjà.
Et maintenant, on va parler de la sidérurgie et d'ArcelorMittal. Moins qu'il y a quelque chose à dire, oui.
Vite fait, par rapport à Lyon, là, les dernières infos, apparemment, les flics ont laissé partir les Italiens et il ne reste plus qu'en gros 250 à 300 personnes encerclées par eux. Quoi.
D'accord. Alors, ils ont dû faire... maintenant, ils font du triage ethnique et demandent les nationalités avant de laisser partir. Oui, on va parler de Florange, puisque... le spectacle médiatique ce week-end a concentré son attention sur l'affaire Florange et puis la décision de Mittal d'abandonner le site, mais assez rapidement en fait, comme les médias, hein, faut pas leur demander de trop réfléchir et de prendre leur temps, ils ont réduit cette affaire à une sorte de conflit, d'engueulade entre le ministre du redressement productif et le Premier ministre Hérault et Montebourg. Mais en fait, l'affaire de Florange et de Gandrange et l'affaire d'ArcelorMittal, enfin l'affaire, ce qui se passe aujourd'hui dans la sidérurgie internationale et dans la sidérurgie française, elle est aussi le témoin de cette crise dont on parle et qui... une crise qui n'aurait été que financière, mais qui est en fait une crise bien plus profonde et qui montre que la production française et que l'économie française, en tous les cas dans dans sa structure va être profondément impacté, comme on dit dans les milieux autorisés, par ce qui se passe. Alors pour ça, il faudrait un peu revenir sur l'histoire de la sidérurgie française. On va pas aller très très loin, mais on va juste rappeler que la France, elle était dans les années 70 encore au quatrième rang du production de l'acier française, et que en 20 ans, donc de 90 à 2010, elle est passée du 9e au 15e rang mondial. Aujourd'hui, la France, elle ne compte plus que pour 1% dans la production mondiale d'acier, 130 millions de tonnes. Elle possède encore quand même quelques sites qui sont extrêmement importants, comme ceux de Dunkerque, etc. et tout ça. Mais la filière de la sidérurgie ne représente que 2% dans la totalité de l'emploi industriel. Donc son importance, la sidérurgie, ne résulte dans l'économie moins de sa taille dans la place de la chaîne de production que comme, on va dire, élément structurant de l'industrie française. Alors, en 1974, il y avait plus encore 165 000 personnes qui travaillaient pour la filière, notamment en Lorraine, hein, et puis en Moselle.
Et dans le Nord.
Dans le Nord également, oui.
Ouais.
Par exemple, il y était encore 8500 personnes qui bossaient pour la sidérurgie à Denain, quand les propriétaires de l'usine décident de fermer en 1979. Et là, déjà, pour limiter la casse sociale, le gouvernement met la main à la poche. Un premier plan de pré-retraite va être initié par le gouvernement de Raymond Barre, souvenir, qui va permettre un peu d'éponger la classe sociale. Excusez-moi, j'ai perdu mes notes, voilà. Donc déjà, il y a une première restructuration à la fin des années 80, dans lequel l'État français va, être mis à contribution, pour payer et pour restructurer un petit peu cette sidérurgie. Alors en fait, le problème, c'est que la sidérurgie française, elle sert de fournisseur, d'une part à l'automobile, et d'autre part aux produits manufacturés. Or, comme on a essayé de l'expliquer dans les précédentes émissions, on voit que ces deux secteurs sont profondément en crise, puisqu'ils sont aujourd'hui confrontés à des difficultés de vente et d'écoulement de leurs marchandises. Par exemple, cette année, c'est la pire année de vente pour la bagnole.
Ouais.
Hein, les ventes ont reculé de 15%, donc il faut écouler les stocks. Donc on va pas racheter des matières premières, on va pas racheter de l'acier. Et puis également, la demande, elle s'est déplacée, puisque aujourd'hui, la demande de l'acier, elle est principalement située en Asie et en Inde. Et aujourd'hui, la Chine consomme 62% de... Pardon, produit 44% de l'acier total dans le monde et en consomme près de 60%. Donc évidemment, avec des coûts qui sont nettement moins élevés consécutifs aux conditions sociales de production, etc., etc. Donc non seulement l'acier européen n'est absolument plus rentable, mais en plus il y a un phénomène qui est arrivé depuis une dizaine d'années, c'est que l'acier, par rapport à sa structure par rapport à la structure de son capital, pardon. Eh bien, elle sert d'opération et d'ajustement, pas aux financiers, mais à des opérations des industries transnationales. Alors, faudrait revenir également sur les jeux qu'il y a pu avoir, puisque à l'intérieur des restructurations différentes qu'il y a pu avoir dans la série française, la sidérurgie française, avec ces deux grandes usines à la papa, Usinor et Sacylor, ouais. Il y a eu à chaque fois des échanges. Par exemple, en 86, Madelin va exploser la série la sidérurgie française, sans bien évidemment remettre quoi que ce soit dans les poches de l'État. En 95, Usinor et Sacylor, les derniers vestiges de capital public, seront vendus par Juppé à une modique somme, 17 milliards de francs, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça, 17 milliards de francs. Après avoir évidemment épongé, lui, les dettes des industries. Donc on le voit, dans la part du capital et de l'État et de son intervention, il y a toujours eu cette espèce de d'interventionnisme de l'État, de jeu de l'État. C'est pas pour rien d'ailleurs que Montebourg a essayé de jouer la carte patriotique et la tentative de nationalisation, et que deux, les syndicats ont toujours recours à l'État, puisque ils se tendent toujours vers la main nourricière, quoi. Et en plus, là-haut, il y a une vieille histoire, évidemment, avec la CFDT, hein, puisque cette famille, on dirait, puisque à l'époque, c'était le papa de Chirac, hein,
oui,
qui était le responsable de la CFDT Métallurgie et qui était rentré au gouvernement pour pouvoir découper cet ensemble industriel. Alors donc, comme je le disais, depuis les années 90, la scierie, la sidérurgie, elle sert aussi donc dans la constitution et la structure des grands capitalistes à faire des opérations. Et donc c'est là qu'intervient un petit peu ça. C'est pas nouveau, hein,
ouais.
Puisque pour les Rémois, votre bibliothèque Carnegie là, elle a été construite par un des géants de la scierie mondiale au 19e siècle, Albert Carnegie, qui en 1901 devient l'homme le plus riche du monde en vendant toutes ses parts de son industrie sidérurgique pour la modique somme de 448 millions de dollars à l'époque. J'imagine ce que ça peut représenter. Et ce brave homme, comme il a eu des petits remords quand même, parce que c'est important pour les Rémois de savoir pourquoi il y a un buste devant la bibliothèque là. En fait, cet homme est quand même responsable indirectement, mais de la mort de 16 personnes lors des plus grandes grèves qu'il y aura dans la sidérurgie américaine. 1889, je crois, mais il faudrait vérifier. Sinon, si je dis des bêtises, vous m'écrivez et on rectifiera la semaine d'après. Donc vous voyez, dans la structure du capital international et dans la structure du capital, la Syrie a toujours été quelque chose de structurant, extrêmement important, c'est normal, hein. L'acier et le métal, c'est un des fondements de l'industrie de la bagnole, c'est aussi un des fondements de la construction immobilière. Donc c'était quand même les deux mamelles sur lesquelles était basé le capital.
Et plus l'industrie nucléaire.
Plus l'industrie nucléaire.
Plus l'industrie nucléaire.
On va dire pour la seconde partie du XXe siècle.
Ouais.
Donc, je vous parlais de Mittal. Effectivement, Mittal, Lakshmi Mittal, c'est effectivement un sidérurgiste indien qui va, tout au cours de sa carrière, racheter des entreprises, les restructurer et les revendre une fois que les dettes sont épongées. Alors, quand même, il faudrait revenir, et ça, on en parle pas beaucoup sur l'acquisition d'Arcelor par Mittal. Oh, j'avais oublié de d'envoyer cette petite pique, mais parlons-en quand même, quoi. Lors de la privatisation en 95 d'Arcelor, il faut se rappeler que Francis Maire, hein, à l'époque, l'ancien PDG, alors je sais plus si c'est Sassilor ou c'est Usinor, c'est pas très grave, mais va se faire un paquet de pognon en vendant ses 350 000 dernières stock options. Je crois qu'il y a un gain qui est aux alentours de 880 millions d'euros, non pardon, 880 millions de francs, donc ça fait 110 millions d'euros. C'est intéressant quand même, puisque Francis Maire, qui est l'ancien PDG d'Usinor ou de Sassilor, aura un moment des responsabilités dans le gouvernement. Il sera aussi, vous en avez peut-être rappelé peut-être, un des candidats au MEDEF. Donc on voit un petit peu la porosité qu'il peut y avoir dans ces milieux. Quand on parle de bourgeoisie, justement, c'est ce terme-là qu'on désigne. Donc revenons à notre brave Lakshmi Mittal, hein, qui donc accomplit sa success story en rachetant des entreprises, et puis qui entre 75 et 97 et 87, pardon, va devenir le premier producteur d'acier mondial et va commencer à mettre en œuvre sa stratégie d'acquisition des différentes usines ou pôles de sidérurgie européens. Et en fait, le rachat du groupe Arcelor par Mittal, il est effectivement emblématique. En 2006, il y a une OPA, une offre publique d'achat, qui est une opération boursière, c'est-à-dire que un capitaliste va faire une offre d'achat des actions surévaluée pour pouvoir acquérir un maximum de ses actions et devenir majoritaire au conseil d'administration et donc propriétaire de l'entreprise. Et donc le groupe Arcelor va racheter le groupe Mittal va racheter Arcelor pour moins de 27 milliards d'euros, ce qui va lui permettre de devenir le numéro 1 mondial de l'acier. et de comment dire de pouvoir prendre le contrôle de cette entreprise. Et ce qui est également intéressant, c'est que la stratégie de Mittal en 2006, elle se fait par un procédé dont on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on ne parlait pas auparavant, s'appelle les LBO. C'est une opération bancaire qui permet, en créant une entreprise, une boîte, une holding financière, une espèce de chimère en fait, qui permet d'emprunter de l'argent pour acheter une boîte, quelle qu'elle soit, de faire payer les intérêts de cet emprunt par les dividendes, donc d'essorer au maximum la boîte pour faire payer les intérêts de ces emprunts par les dividendes et les bénéfices qui sont dégagés. Et une fois que ces intérêts sont payés, de revendre la boîte. Donc de dégager à la fois une plus-value, mais surtout de dégager de la liquidité, donc de l'argent frais, effectivement, qui permettent à l'entreprise qui a emprunté par LBO d'avoir de l'argent pour pouvoir spéculer sur les marchés, puisque le problème du capitaliste, c'est qu'il a toujours besoin d'argent, et une fois qu'il a réalisé son accumulation initiale, il a besoin d'argent frais pour pouvoir spéculer et faire des opérations. Et donc effectivement, cet achat par LBO d'Arcelor va permettre à Mittal de s'imposer sur le marché international de l'acierie et de la sidérurgie. Et aujourd'hui, une fois qu'il a réalisé cette opération, il n'a plus besoin de Mittal. Il n'a plus besoin de Florange et d'Amorange. Il n'a plus besoin d'Arcelor. Et Mittal a d'autres sites en France. Il a notamment le site de Dunkerque.
Ouais, hein. Dunkerque.
Il a le site de Mézières-les-Metz, ouais, qui est un site de recherche, hein, en acierie. Et par exemple, ces deux sites-là, on n'en parle pas du tout, quoi. Ce qui vraiment intéresse Mittal, c'est de se débarrasser de ses branches pourries, et en l'occurrence des sites de Gandrange d'une part et de Florange d'autre part. Puisque quand on regarde un petit peu...
De Florange, il veut pas liquider tout. Il veut liquider la fabrication de l'acier.
Oui.
Après, la transformation, ça on garde, parce que apparemment, c'est ce qui rapporte beaucoup.
Bah oui, c'est ce qui rapporte le plus. Mmh. Mais oui, c'est la différence, c'est ce que vous avez peut-être entendu dans le langage là de ce week-end, les filières chaudes et la filière froide. En gros, la fabrication et la fonte des minerais, et puis de l'autre côté, la transformation de ces aciers, quoi. Et ce qui est intéressant quand on regarde un peu les données des professionnels du secteur, puisque l'acier, comme on l'a dit, est un élément structurant du capital français. C'est les grands maîtres des forges de l'époque, hein, vraiment la famille de Vindel, Schneider, etc., l'État français. Donc il y a des choses qui existent. Quand on regarde par exemple le rapport de la Fédération française de l'acier, l'acier en France, vous voyez ce qu'on est obligé de se taper pour les émissions de l'Égrégore. On voit que en fait, sur les considérations du site de Florange et de Gandrange, ça fait 10 ans que les professionnels savent que ce site est inadapté, et ça fait 10 ans que les syndicats, qui sont étroitement associés à la direction de ces entreprises, savent très bien que les sites ne sont à la fois plus compétitifs d'une part, mais que les sites ne sont plus rentables pour la structure du capitalisme aujourd'hui de la sidérurgie internationale, quoi. Donc quelque part, il y a quand même un sentiment d'être légèrement pris pour des cons par justement ces syndicalistes là, type Édouard Martin et CFDT, qui savent très bien que leur métier, leur travail est aujourd'hui condamné, qu'ils peuvent absolument pas rentrer en concurrence avec les autres producteurs mondiaux d'acier, ouais. Et ben voilà, quoi. Alors il y a un vieux y a une vieille argumentation qui est la nécessité, alors d'un côté cette espèce de capitalisme patriotique là, de dire de produire français, et la nécessité aussi de dire que il faut du travail et que voilà, ils sont capables de produire des aciers de qualité. Et on voit là à quel point en fait ces questions type PSA, mais aussi Florange et Gandrange, ils posent pas mal d'interrogations sur ce qu'est aujourd'hui le mouvement ouvrier français et quelles peuvent être les revendications liées aux restructurations et aux licenciements qu'il va y avoir par rapport à la crise. Il est évident que si les gens qui vont se retrouver prises dans les gens qui vont se retrouver pris dans les licenciements qu'il va y avoir. On parle aujourd'hui de 1500 chômeurs par jour et on sait que l'année prochaine va être terrible en termes de plans sociaux et de licenciements. C'est-à-dire qu'on va atteindre des chiffres certainement records. Si les travailleurs qui sont pris dans ces plans sociaux et dans ces plans de licenciement ne parviennent pas à dépasser la simple revendication corporatiste et la simple revendication liée au travail, ils n'ont aucun espoir. Et d'un autre côté, s'ils mettent leur destin entre les mains des syndicats qui visiblement aujourd'hui ne sont même plus capables de défendre ce qu'ils étaient avant capables de défendre, on se rappelle, mes camarades qui sont plus expérimentés se rappellent à quel point les mobilisations avaient été importantes dans la sidérurgie française. Aujourd'hui, les luttes de la sidérurgie et les luttes donc de la classe ouvrière, c'est quoi? C'est aller prendre des petits déjeuners devant le ministère du redressement productif. C'est sûr qu'en demandant gentiment à l'homme, le sixième homme le plus riche du monde, en prenant son café sans entamer un mouvement de lutte, ça risque de pas déboucher sur quelque chose de fort. Et si on regarde aujourd'hui les mouvements qui semblent plus intéressants et qui semblent susceptibles d'arracher et de gagner des choses, c'est des mouvements qui justement dépassent cela ou ont des autres types de revendications. Quand on compare la créativité d'un mouvement comme à Notre-Dame-des-Landes et ce qui est important quand même, la défense de leur emploi, enfin de leur salaire, par les gens de Grandange, on voit très bien à quel degré et dans quelle impasse sont menés aujourd'hui les travailleurs qui vont se retrouver face à l'impact direct de la crise dans leur vie.
Oui, mais enfin, bon, quand tu regardes un peu, parce que tu as parlé de Denain, tu n'as pas parlé de Longwy. 79, à Longwy, il y a eu des luttes importantes. 84, encore. Il y a eu, à ce moment-là, d'ailleurs, radicalisation, parce que en 79, c'était mené par, effectivement, des gens qui se battaient seulement sur les histoires de maintenir la production coûte que coûte, avec à la tête la CGT et le PC. En 84, la lutte a eu un autre tournant, beaucoup plus d'ailleurs collectif, beaucoup plus autonome, avec, n'oublions pas, une radio libre, n'oublions pas aussi des ruptures avec le PC, des ruptures avec avec la CGT. Mais n'empêche que, au final, on s'aperçoit que les gens ont été licenciés, certains ont eu... les gens ont été tous licenciés, on peut le dire, ou quasiment tous. Hein. Il y a eu quelques personnes qui sont passées au Luxembourg, qui ont été rembauchées au Luxembourg dans la filière sidérurgie, qui à cette époque-là n'était pas encore condamnée. Elle l'est depuis. Hein. La sidérurgie au Luxembourg est en baisse, c'est terrible. Il y avait encore, je crois, un train à fil à côté de Longwy. Dans les années 90, je crois que maintenant c'est terminé, et tous les gens là-bas qui ont été licenciés ont réussi en 84 tout de même à avoir un peu de fric pour la plupart du temps dans les plans sociaux, pour seulement survivre quelques temps, et surtout pour essayer d'avoir de créer des entreprises sur place, etc. C'était, pour ceux qui sont tombés là-dedans, c'était du pipeau, puisque la plupart du temps, ces entreprises ont périclité ensuite. Il faut savoir aussi que sur Longwy, il y a eu aussi une désertification terrible. Les gens sont partis. Quand on voit maintenant ce que c'est que Longwy, ce que ça a été il y a 30 ans, ça n'a plus rien à voir. Il y a une misère noire, il y a des maisons à vendre partout, il y a il n'y a plus rien au niveau social ou quasiment plus rien.
Oui, t'as quand même oublié la lutte de la chair.
J'allais en parler, je l'oubliais pas. Alors la lutte de la chair intervient après. Elle intervient dans les années 86. À partir de 86, ça va durer, on peut dire, 8 ans. Et alors là, vu que c'est toujours un problème d'écoute et puis de savoir ce qui s'est passé avant, aussi bien à Denain qu'à Longwy, etc., les gens ont rapidement œuvré pour faire en sorte que, de toute façon, leur emploi était foutu. En plus, c'était un emploi de merde, faut-il le rappeler. Hein. Il le disait, il le vivait très bien depuis très longtemps. Et donc, il le disait très bien. Et puis, il revendiquait le fait de pouvoir arracher au patron tout simplement le maximum de fric pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible à l'abri. Ça a quand même été une lutte qui a été très longue, hein, puisque les plans sociaux n'étaient pas respectés, évidemment, par le patronat ou par l'État. Et tous les, on peut dire, très souvent, les sociologistes, longtemps après, je crois qu'ils ont été encore à faire des barrages sur la route nationale menant de Revin à Givet, et donc en Belgique. Ils ont fait des barrages, je crois, pendant 7-8 ans. Pour imposer ce rapport de force, parce que ça s'impose, ce rapport de force là. Alors on n'en est pas là aujourd'hui, hein, par rapport aux luttes qui existent, hein. Vraiment on n'en est pas là, et on n'en est qu'au début, quoi. Moi j'espère, quoi, parce que s'il se passe rien, bah ils se feront complètement bouser, c'est évident.
Ben oui, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une persistance dans l'illusion, puisque ce qui éventuellement, en tous les cas, ce que racontent les syndicalistes en accord avec l'État et le gouvernement, c'est qu'il y aurait un projet européen là qui s'appelle ULCOS. Je vous traduis pas l'acronyme parce que c'est un barbarisme anglais, qui est en fait un consortium de 48 entreprises européennes avec du fric européen, du fric français et du fric de ce consortium, qui reprendrait l'usine de Florange pour regagner la compétitivité, la fameuse, grâce aux économies réalisées sur le coût des quotas d'émissions de CO2. Parce que la sidérurgie, on n'en parle pas, mais c'est un truc extrêmement polluant, quoi. C'est vraiment une industrie de mort dans tous les sens du terme. C'est une industrie de mort dans son processus, c'est une industrie de mort dans sa fabrication.
Dans sa production, oui, c'est
voilà. Je vous rappelle que l'expression « plomber les poches » vient du fait que lorsqu'un sidérurgie tombait ou mourait, on offrait un petit lagot de plomb à sa veuve qu'elle portait dans sa poche pour pouvoir se souvenir des exploits de son travailleur de mari, quoi. Et vraiment, quand on regarde le projet ULCOS, c'est comment il est vendu à la fois par Hérault, par Montebourg, par les commissaires européens à l'industrie et par les syndicalistes, on se rend compte que vraiment ces gens-là soit ne veulent pas comprendre, ou soit racontent des chimères. Il faut être clair, il n'y aura pas de retour aux 30 Glorieuses. C'est terminé,
ça c'est clair.
C'est fini. L'industrie sidérurgique n'avait jamais perdu d'argent, puisqu'à l'époque on disait que les hauts fourneaux pissaient de l'or jusqu'en 73 et le premier choc pétrolier. Ça ne marchera plus, c'est terminé pour l'Europe, c'est fini, c'est quelque chose qui est acquis. C'est comme la bagnole. Alors les petits gars de la CGT et de la CFDT qui disent qu'ils font du bon travail, bon, je dis pas le contraire, moi, mais en tous les cas, ce qu'ils n'ont pas compris ou ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est qu'ils sont pris dans un système qui les dépasse, qui s'appelle le capitalisme, qui n'est pas un système très gentil, c'est vrai,
c'est moi.
Mais qui est un système qui est nécessaire de comprendre. Et à l'intérieur de ce capitalisme, on n'est pas un travailleur de la sidérurgie, on n'est pas un fabricant de super métal, on n'est pas quelqu'un qui produit des trucs bien, on est un exploité ou un exploiteur. Donc une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu peux commencer à éventuellement comprendre où est ton intérêt. Et son intérêt, leur intérêt aux travailleurs de Florange, c'est éventuellement, même si on peut comprendre qu'à travers le travail, il peut y avoir une réalisation, c'est-à-dire avoir une utilité sociale, puisque à l'intérieur de ces départements, la Moselle, la Lorraine et le Nord, il y a évidemment une forte culture liée à la sidérurgie. Ça, c'est pas quelque chose qu'on déprécie ou que moi je déprécie, mais il faut que ces gens-là comprennent que leur seul intérêt aujourd'hui, c'est de partir avec le maximum de pognon, quoi. Et c'est que ça. C'est, de toute façon, c'est à la limite ce qu'ils ne pourront juste avoir, parce que visiblement leurs emplois c'est terminé, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils se constituent en tant que menace, hein, vraiment. Malheureusement, c'est pas le chemin que ça a l'air de prendre, mais bon, qui sait de quoi sera fait.
Alors, qu'est-ce que t'en penses de la nationalisation, là? C'était comique, je trouve. Ah. Hein, c'est le Montebourg qui va, dans un an de s'appuie aussi sur l'Américain.
Ouais.
Comme quoi, effectivement, l'autre, il a fait intervenir l'État dans l'usine General Motors, dans les usines General Motors de l'automobile. Il y a la différence, c'est que General Motors, il y a encore des débouchés pour cette entreprise. Alors que pour la sidérurgie en France, au niveau de la production du, il faudrait qu'ils le vendent après leur production d'acier. Et là, ça serait une autre paire de manches, c'est moins compliqué.
Oui, non, mais en fait, c'était pour renflouer, ça permettait de renflouer les actionnaires de General Motors, ce qui a été fait. Et de toute façon, la privatisation, elle n'a pas duré très longtemps.
Il n'y a pas eu une nationalisation de General Motors.
Oui, complètement.
Il y a eu, comme l'a dit Camille, un renflouage, c'est-à-dire un épongeage des dettes, quoi. Mais il n'y a eu aucune, on va dire, prise de propriété sur le capital de General Motors.
Bien sûr.
Et c'est un vieux truc de la gauche, hein, la nationalisation.
Ah oui, c'est terrible. Alors en plus, il y a quelqu'un qui disait que, vu les actionnaires qu'il faudrait indemniser au taux fort en cas de nationalisation, dans une période où effectivement la Sierra Arabienne du mal à se vendre, je vais te dire, l'État français serait mal, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est leur problème. C'est aussi l'autre, quand même, quelque part.
En fait, il avait trouvé quand même quelqu'un pour accompagner, parce qu'en fait, il n'était pas. Bon, faut savoir que l'État français a quand même encore des actions dans la sidérurgie française, chez Mittal, ouais. pour le cacher. Et donc, il avait trouvé un repreneur. Alors, à un moment, on a dit que c'était des Russes. Après, on a dit que c'était un repreneur français. En fait, le repreneur français, c'est le président du club de foot de Metz, qui est un ancien cadre du Zinor, qui a déjà sauvé des entreprises en Belgique, mais qui s'appuyait sur les sidérurgistes russes, quoi. Et donc, il devait amener 450 millions quand même pour acheter, voilà.
D'accord.
Oui, bah de toute façon, et puis même son projet de nationalisation, pardon, semblait pas hyper pertinent. Ça semblait juste un argument pour gagner du temps, puisque tu l'as dit, l'indemnisation des actionnaires et des propriétaires où ils auraient trouvé le pognon. Alors, à moins qu'il y aurait eu une nationalisation sans indemnisation.
Ah non, alors justement, là. Bah non. Non, mais écoute, non. Ce sont les socialistes qui sont au pouvoir, s'il te plaît.
Non, mais bon, on peut toujours rêver, quoi. C'est quand même pathétique. Là, je regardais les déclarations des syndicalistes. La nationalisation, on y croyait vraiment, c'est un coup de Trafalgar. Ils font confiance à un capitaliste, c'est toujours les mêmes qui perdent, etc. C'est une trahison. Et donc, face à ce deuxième cocufiage, puisque le premier c'était de 2008, hein, avec la promesse de Sarkozy de pas fermer l'usine de Gandrange. Donc face à ce nouveau cocufiage, la réaction des syndicats de la CFDT et de la CGT est assez terrible, puisqu'ils demandent solennellement la convocation d'une réunion tripartite.
toujours réunion tripartite. Hein.
Ouais, ouais. C'est catastrophique. Donc, c'est déjà pas la fête, hein, en Lorraine, et c'est déjà pas la fête en Moselle et à Gandrange et tout ça. Donc, il y a quand même 650 emplois directs et 1800 indirects. Si ces travailleurs-là veulent essayer de pas se prendre de plein fouet ce qui se passe dans la gueule, il va falloir qu'ils se prennent en charge eux-mêmes et qu'ils se rappellent un peu que quand on veut, on peut. En tous les cas, dans la sidérurgie française, quand on veut faire bouger les choses, il est possible de faire bouger les choses, mais pour ça, il faut s'affranchir de la demande de politesse et de la croyance en un gouvernement quel qu'il soit, quoi, de gauche ou de droite. Ce qui est un peu, quelque part, l'enjeu de toutes les luttes qui vont avoir lieu.
Complètement,
hein.
C'est toutes les luttes, d'ailleurs, ensuite, c'est la croyance en l'État. Hein, c'est l'État qui est au-dessus, qui n'est pas du tout capitaliste, hein, qui est au-dessus, qui a un vrai arbitre neutre. Comme si l'État avait été neutre un jour, hein. Non, mais et toute l'idéologie socialiste, communiste, etc., est basée là-dessus, hein. Et bien sûr, syndicaliste, hein. Syndicaliste officiel, hein. CGT, CDT, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois ils demandent une réunion tripartite, parce qu'il leur faut un arbitre. Hein, il y a deux camps. Il leur faut un arbitre. Et l'arbitre, c'est l'État, dis donc. Sauf que l'État, il est pas du tout. Il est actionnaire, justement, dans ces parties prenantes du capital. C'est bon qu'on puisse dire de toutes ces entreprises.
Alors, est-ce que 2013 sera ce point de bascule dans les luttes sociales? Évidemment, nous, on l'espère de tous nos cœurs et de toute notre force. Mais alors là, ça voudrait dire qu'il se passerait des choses en France. À suivre, quoi.
À suivre. Oui, alors on va peut-être continuer sur des informations qu'on a eues sur Reims. Bon, faut savoir que sur Reims, il n'y a pas que Reims, mais c'est la ville principale dans la Champagne-Ardenne où il y a tous les soirs 50 personnes au moins qui n'ont pas de place d'hébergement par le 115 et qui dorment à la rue. Aujourd'hui, c'est 50 personnes tous les soirs sur Reims. Donc, un petit peu, un tout petit peu à Chalon et un tout petit peu aussi à Épernay. Donc, alors que dans d'autres villes, c'est encore bien pire dans les grosses villes en France. Donc, c'est une situation quand même qui est intolérable. Bon, il y a des mobilisations qui se font dans certaines villes, comme à Tours, par exemple. En région parisienne, il y a eu ce week-end des réunions là-dessus pour voir un petit peu que faire. C'est vraiment une situation complètement alarmante.
Il y avait aussi à Rennes où il y avait 250 personnes qui étaient logées, qui sont fait virer par la force publique la semaine dernière. Et savez-vous ce que va devenir ce lieu où était qui était squatté par des gens qui n'avaient pas de domicile?
C'est des demandeurs d'asile, hein?
Oui.
C'est des demandeurs d'asile,
oui. Oui, vous savez ce que ça va devenir?
Non.
Un cadavre.
Ça va venir à Cada.
Oui, ils les ont expulsés pour faire les travaux. C'est comme le 260 rue des Pyrénées, ça va devenir un foyer Emmaüs. Mais dans le laps de temps, il faut compter que sur soi-même et sur la charité, puisque vous le voyez, vous avez peut-être entendu parler de ça, la ministre du Logement a écrit à l'Église,
à l'église catholique
pour demander si elle pouvait lui prêter ses propriétés.
Elle a écrit aussi à SNCF.
D'accord.
Pour demander effectivement qu'il libère des espaces.
Alors oui, à Reims, tu parles de la situation du logement à Reims, elle se tend, mais pourtant il y a des logements qui sont vides et il y a des logements qui sont construits et d'autres qui sont détruits. En effet, à Croix-Rouge, là il y a 4 immeubles, donc à peu près 150 logements qui sont détruits, alors qu'ils étaient en bon état, hein, bien évidemment, mais avec la restructuration du quartier de Croix-Rouge. Eh bien, on met à bas ces logements, des logements sociaux, hein, bien sûr. On revend des logements sociaux régulièrement pour les gens qui habitent en HLM. Ils sont sollicités pour acheter leur logement. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont dehors et il commence à faire très 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 froid. Donc, je sais que vers le pont de Vitry, il y a une vingtaine de personnes qui habitent. Le problème étant que ces personnes, les autres, sont un peu disséminées et essayent de s'en sortir par eux-mêmes, par-ci, par-là. Alors bon, il faudrait vraiment réagir là-dessus, quoi.
Ouais. Alors il y a aussi quand même une nouvelle, c'est que le 115 pouvait, et ça arrivait assez souvent, placer des gens dans un hôtel. Ça se fait plus depuis le mois de septembre, puisqu'il n'y a plus, soi-disant, de fric pour payer les hôtels. Hein, il y a du fric bien sûr pour l'aéroport de Nantes, il y a le fric pour TGV Turin, mais il n'y a pas de fric pour payer une chambre d'hôtel pour des gens qui sont dehors et qui crèvent. Voilà quoi. Alors c'est le changement, c'était bien sûr c'est pour demain. Voilà. On va peut-être se quitter là-dessus, à moins que vous ayez encore des choses à dire. Non.
Depuis aujourd'hui, il y a la mise en place de la circulaire de régularisation. Là.
Ah, la circulaire de régularisation, bah, je peux en parler, puisque je me suis retrouvé samedi, finalement, dans une réunion complètement improvisée avec une vingtaine de gens qui venaient aux nouvelles, qui étaient donc sans papier, et qui voulaient avoir, alors pour ça, sur les 20 personnes qui étaient là, c'est assez significatif, hein, cette circulaire, deux personnes pouvaient rentrer dedans, éventuellement. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, déjà, ça concerne que des trucs bien spécifiques. Hein. C'est des gens qui sont mariés avec quelqu'un qui est en situation régulière. Et la première des conditions, c'est être en France depuis au moins 5 ans. Être en France depuis au moins 5 ans. Si vous avez des enfants qui sont scolarisés, il faut qu'en plus des 5 ans de présence en France, il faut que vos enfants soient au moins scolarisés depuis 3 ans. Alors bon, ce qui fait que il y a quelques personnes, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui passent complètement à côté. En plus, par rapport à ceux qui sont mariés avec un étranger, la situation n'a pas changé puisqu'il faut des ressources suffisantes. Et justement, ces gens-là n'ont pas pu se faire régulariser, ils n'ont pas pu passer par la procédure de regroupement familial parce que justement, il n'y avait pas de fric, ils n'avaient pas suffisamment de ressources, soi-disant, pour l'État, par l'État. Donc voilà, donc on en est là. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que là, paraît-il, l'avancée, ça serait pour les étudiants qui sont actuellement 19 ans, 20 ans, qui n'ont pas pu avoir une carte à 18 ans et qui sont en France depuis l'âge de 16 ans, eux peuvent prétendre à une régularisation, sauf qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut qu'ils réussissent dans leurs études et en plus, ils auront une carte d'étudiant, hein, faut pas non plus rêver.
Les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Je voulais bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'était Régor. Chaque semaine, c'est l'école des Gars et Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. C'est Régor, une parole anarchiste communiste.